Dans la chambre d'hôte. Frédéric traverse la cour de la maison d'hôte pour rejoindre leur chambre. Il y a plusieurs jolis buissons de fleurs jaunes et il pense à la réflexion de Julie comme quoi la première couleur du printemps est le jaune, puis vient le violet, puis le rose qui s'installe sur toute la longueur de l'été. Il n'est pas très féru en plantes, mais cela lui plaît d'imaginer que la nature décline les couleurs des saisons selon un ordre pictural. Il monte le bel escalier en bois menant au chafaud, transformé en chambre d'hôte. Elle n'a aucun mal à imaginer à quoi devait ressembler la grange avant sa métamorphose. La réhabilitation avait été faite avec goût et les volumes respectés. Quand il entre dans la chambre, Julie a ouvert la fenêtre et regarde dehors. Elle semble surprise de le voir revenir si vite. Il lui explique qu'effectivement, la patronne était moins bavarde aujourd'hui, qu'elle semblait pressée, qu'elle devait prendre sa douche. « Mais on peut rester un jour de plus ? Tout le week-end, si on veut. Elle n'a personne avant lundi midi. Chouette !» Julie aime beaucoup cette chambre d'hôte dans ce village. D'un côté, la bâtisse donne sur la grande rue. De l'autre côté, on est directement dans la campagne, les prés, les forêts, les vallons. Ils y sont arrivés par hasard, choisissant de prendre des petites routes pour rentrer chez eux. En traversant le village, ils ont eu envie de s'y arrêter, de le visiter, découvrant les belles maisons, le jardin d'un château disparu, le lavoir aux deux bassins, se retrouvant même par erreur dans une maison de retraite. Le soir venant, ils ont décidé de chercher où dormir, ils ont trouvé cette chambre d'hôte, y ont passé une nuit, puis une autre et maintenant une troisième à venir. Cela lui fait plaisir. Elle aime cet endroit. Elle s'y sent bien. C'est calme, tellement calme. Il faudra partir demain après-midi au plus tard. Oui, elle sait qu'il faudra bien rentrer un jour. Lundi, la vie reprend. Frédéric vient à côté d'elle. De leur fenêtre, ils voient leur copain, l'âne. Est-ce parce que lui aussi le voit ? Il commence sa mélodie de braiement et de sifflement. Cela les fait rire. Ils se serrent un peu plus l'un contre l'autre. Julie regarde Frédéric. Tu crois qu'il fait ce raffut tous les jours à la même heure ? Je ne sais pas, mais j'aime bien ce raffut-là. Frédéric a un petit sourire en se souvenant d'hier. Oui, ce devait être la même heure quand Julie et lui avaient entendu ce braiement à la fois drôle et troublant. Ils avaient effectivement commencé par rire, puis par se troubler. Il avait le sentiment qu'ils avaient mieux fait l'amour que jamais, entre le jeu et le désir, entre la violence animale et la passion amoureuse. Un grand moment, pense-t-il en souriant. Il embrasse Julie. Julie aussi se souvient d'hier, comment Frédéric l'avait déshabillée avec fureur, comme si l'âne lui transmettait son énergie. Ils avaient fait l'amour loin des timidités habituelles. Ils se connaissaient depuis 2 ans maintenant, ne vivaient pas ensemble mais passaient beaucoup de temps l'un avec l'autre. Est-ce leur histoire d'amour raté qui les rendait plus méfiants ? Ils allaient à petits pas dans leur relation. Mais hier, grâce à l'âne, ils avaient fait un grand pas. Un grand pas dans la découverte de l'autre, dans le désir de se connaître plus encore, dans l'espoir revenu d'être avec la bonne personne pour traverser une partie de vie. Leur corps avait parlé pour eux. L'âne avait été un révélateur à la fois comique et très érotique. De nouveau, l'âne, ouvrant grand sa gueule vers eux, lèvres retroussées, dents en avant, se met à braire de toutes ses forces. Il le regarde en souriant, hésitant sur la conduite à tenir. se laisser de nouveau envahir par les appels aux rutes chantées par l'âne, est-ce une bonne idée? Ne vont-ils pas ternir le souvenir d'hier en cherchant à renouveler l'émerveillement? Ils restent longtemps, serrés l'un contre l'autre, avant de se sentir envahis malgré eux d'un désir violent. Julie se laisse choir au sol, le soleil a chauffé le parquet, elle a le visage ébloui et éblouissant. Frédéric se laisse glisser à son tour. Ils en sont aux premières caresses, quand ils entendent des hurlements de femmes, un débordement d'invectives. « Martin ! Martin, tu vas le faire taire, ton âne ? Tu veux vraiment nous empoisonner l'existence ? Tu crois que nous allons rester, comme ça, à ne rien faire, écoutant ton gros dégueulasse d'âne rire de nous juste sous nos fenêtres, tous les midis, à la même heure ? C'est toi qui lui demandes de nous gâcher la vie ? Non content de nous avoir volé notre parc pour en faire un champ, tu y mets un âne. Et un âne qui se tord de rire pendant que nous essayons de déjeuner. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Tu peux me le dire, espèce d'abruti ? C'est nous qui te faisons rire, c'est ça ? Ça te fait rire de racheter nos biens ? Ça te fait rire de nous ridiculiser jour après jour ? Ça fait un mois qu'on te dit qu'il faut lui donner un compagnon à ton âne. Pourquoi tu ne le fais pas ? Pour nous miner ? Nous tuer la vie ? Tu crois que je vais te laisser faire ? Pauvre Pecnot, tu vas voir ce que tu vas voir. Si à trois, il ne se tait pas ton âne, tu vas voir. Un ! Julie et Frédéric cherchent à voir d'où sort cette voix. Une voix de vieille femme qui vient de la maison d'à côté. Ils remarquent que leur hôtesse, elle aussi, est penchée à sa fenêtre. De haut, ils ne voient que son dos nu et ses cheveux humides. L'âne, loin de s'arrêter de braire, semble excité par les cris de la vieille et braie de plus belle. Frédéric et Julie n'ont plus envie de rire. Il y a une telle violence dans cette voix. Cela leur fait peur. Deux. D'autres voix se mêlent à celle de la femme. Une voix d'homme crie « Maman, non, maman !» Trois. Puis le coup de feu. L'âne hurle et chavire. Une immense plainte de souffrance et d'incompréhension, bien loin de ses braiements voluptueux. Il tombe à la renverse. Frédéric porte la main à leur bouche pour ne pas crier en regardant l'âne se tordre, pattes en l'air, affolé, cherchant à retenir l'air qui lui manque. Puis il voit un homme courir dans le champ, à grandes enjambées, jusqu'à atteindre l'âne. Il s'agenouille, le tâte, avec précaution, l'observe, lui parle. Ils n'entendent pas ce qu'il dit, mais ils voient ses lèvres bouger. Les cris de la femme reprennent. « Je t'avais prévenu, Martin, fallait pas nous narguer avec ton âne. Maintenant, tu ne nous empêcheras plus de déjeuner avec tes sales cris de paysans en chaleur. » On l'entend encore crier, mais sur un autre ton. « Lâche-moi, toi. Pour ça, c'est de ta faute. » À épouser moins que rien, voilà ce qui arrive. Lâche-moi, je te dis. » L'homme, qui doit être Martin, ne répond pas. Frédéric et Julie sont fascinés par son calme. Il ne fait pas attention aux vociférations de la femme. Il parle à son âne qui bouge de moins en moins. Ses plaintes deviennent à peine audibles. Il le voit caresser la tête et les oreilles de l'âne. À sa fenêtre, Colette voit aussi les lèvres de Martin bouger. Elle entend ou devine ce qu'il lui dit. « Meurs, mon pépère. Ne cherche pas à rester dans ce monde de fous. Va, je suis là. Ils ne te feront plus de mal. Meurs, mon pépère, meurs. » Dans le champ arrive une femme dont les seins tressautent, tant elle court pour atteindre l'âne agonisant. Elle s'agenouille en face de Martin. Seule Colette peut entendre ce qu'elle lui dit. « Martin, je suis désolée, elle est folle, la vieille, elle est devenue folle, complètement folle depuis que ton âne braie tous les midis. Je suis désolée, Martin, vraiment. » Elle pose sa main pour caresser l'âme, mais Martin, sans lever la tête, la chasse comme il chasserait une mouche morte sur sa table en bois d'un revers de main. À ce moment, Frédéric, Julie, Colette, Martin et Hélène se figent en entendant une autre sorte de cri, des braiements chevrotants, des ânements humains. Le directeur de la maison de retraite racontera le lendemain au docteur Santi, lors de sa visite hebdomadaire du samedi à la maison de retraite, tous les midis, les cris de l'âme tenaient le réfectoire en haleine. Il fallait les voir, nos 46 vieux. Ils cessaient de manger, sauf les plus sourds, et souriaient jusqu'à ce que l'âne ait fini sa chanson lubrique. Alors hier, comme l'âne n'avait pas fini son hymne à la joie, les vieux sont restés en attente un moment. Puis c'est M. Carr, le vieil Irlandais, toujours prêt à faire rire l'assemblée. Mais là, il ne riait pas. Il s'est mis debout et a commencé à braire ou tenter de braire. Et sa complice, la vieille Madame Chêne, l'a rejoint. Puis tour à tour, tous les vieux se sont mis à braire avec lui jusqu'à faire ce vacarme. Martin, Colette, Hélène, Frédéric et Julie entendent ces vieux crier de leur voix fêlée, se gargariser de râles, comme en pleine jouissance. « Ils sont devenus fous, » expliquera le directeur. « Ils ne supportaient pas le silence, cette partition inachevée. Ils ont eu besoin de conclure cet acte qu'ils entendaient chaque midi depuis plus d'un mois. Cela les faisait vibrer à leur manière. » Ils ont crié, ils ont braie tant et plus, et puis ils se sont tus. Ils ont repris leur repas. Pendant cette halalie, l'âne est mort dans les bras de son maître. Une sorte de nativité, ou plutôt une descente de croix, où l'homme tient l'âne dans ses bras, son souffle tenant chaud à la bête morte. La Vierge en pleure. Tout est arrêté. Un silence épouvanté envahit le pré et ses alentours. Les oiseaux eux-mêmes font une pause dans leur chant de printemps. Sur le porche de la maison d'où est venu le coup de fusil, un homme en costume, le visage blanc comme sa chemise, figé, regarde la scène. Il tremble. Progressivement, le village entier semble se retrouver dans le pré. Un homme accourt et tacle le cou de l'âne avant de regarder Martin et de lui taper sur l'épaule. Frédéric et Julie déduisent qu'il est docteur avec sa mallette. Puis leur hôtesse, les cheveux encore mouillés, arrive elle aussi dans le champ. Elle se tient debout. Au pied de l'âne, le regardant comme on dévisage un être cher. Martin se relève, se met à côté d'elle. Elle lui pose la main sur le bras, il laisse faire. L'autre femme, celle qui était arrivée en courant, se relève, puis s'éloigne, lentement, honteusement.